sur Europe 1, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel d'Anne. Bonsoir à vous, Anne.
Bonsoir, Sabine.
Soyez la bienvenue.
Je vous remercie. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me pourrit la vie, c'est-à-dire que je souffre d'angoisse, mais très, très violente, oui. 24 heures sur 24.
Oui.
Je me réveille en pleine nuit, je suis déjà hyper angoissée.
Comment ça se manifeste chez vous, les angoisses?
Ce sont des peurs.
Non, mais c'est physique, vous avez quoi, une boule dans la gorge, du mal à respirer?
Ça commence par la boule à l'estomac.
Oui.
Et puis, après, j'ai peur. J'ai peur tout le temps, j'ai peur de tout. C'est-à-dire que je ne fais plus rien. Je n'arrive plus à faire mon ménage, je n'arrive plus à faire mes courses. Je suis allongée, je ne dors pas, ou prostrée dans mon fauteuil entre 17h à 19h par jour. Je sors juste mon chien parce que je dois, et puis je tremble de tout mon corps, et bien souvent je reviens en pleurant. Et j'en suis arrivée à penser au suicide parce que je ne peux plus supporter. Je ne peux plus. Donc là, je suis dépressive quand même depuis 44 ans.
Oula.
J'ai commencé à 19 ans, j'en ai 63.
Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie?
Peur de l'abandon. J'ai été abandonnée à la naissance pour commencer.
Ah, d'accord.
Et puis à 19 ans, mon ami d'enfance est parti travailler à Paris. Et donc moi, je suis restée dans le nord de la France. Donc pareil, j'ai commencé à dormir toute la journée et me lever la nuit. C'est-à-dire que je faisais le contraire. Mes parents se levaient pour... mon père se levait pour aller travailler. Moi, je montais me coucher. On se croisait. Et puis... après, quand j'ai travaillé, ça a été un petit peu mieux.
Dans quel type de travail vous êtes-vous dirigée?
Je suis un opérateur téléphonique.
D'accord.
Donc, j'ai fait toute ma carrière là.
Et là, ça a été? Parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de pression dans ce milieu-là.
Disons qu'au début, j'étais au service technique, donc ça a été. Mmh. J'ai travaillé 14 ans au service technique. Après, j'ai fait 9 ans de commercial. Là, ça a été effroyable. Menace de mort des clients.
Ouais.
Hiérarchie, injustice au niveau de la hiérarchie.
C'est ce qu'on entend souvent. Hein. Ouais.
Ouais. Ensuite, je suis partie au service technique pour le dépannage Internet, parce que c'était un opérateur téléphonique. Là, c'était les insultes au téléphone. Et comme je ne supportais plus, j'ai dû faire un burn-out sans m'en rendre compte. Je répondais aux clients, je ne pouvais plus supporter de me faire insulter, de me faire traiter de tous les noms. Ça ne plaisait pas aux responsables, donc on m'a un petit peu mis... on m'a dit, écoute, c'est dommage, tu as des bons résultats, tu travailles bien, mais il faut que tu arrêtes de répondre, quoi. J'ai dit, oui, mais moi, je ne suis pas payée pour me faire insulter, enfin voilà, quoi. Mmh. Donc j'ai été un petit peu mis au placard, c'est-à-dire à traiter des listings, ce que j'appelle un travail de grand maternel.
De quoi, un travail de...
Un travail de grand maternel.
Oui.
Et donc là, j'ai commencé à avoir des arrêts maladie. Un an, j'ai repris en mi-temps thérapeutique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant 37 ans, ça va choquer peut-être pas mal de monde, depuis 37 ans, j'ai une relation avec un homme marié. 37 ans.
Bah non, moi, c'est pas une question d'être choquée, c'est que j'imagine derrière la souffrance pour vous aussi, quoi.
D'autant plus que, maintenant, nous sommes devenus amis puisque sa femme est en retraite depuis 2008. Donc, en 2008, on travaillait ensemble, donc on se voyait tous les jours, on mangeait ensemble le midi. Et puis, en 2008, elle m'a dit, on ne pourra plus se voir. Et puis, j'ai dit, écoute, si c'est comme ça, je vais l'inviter à boire le café. Et puis, comme ça, on pourra continuer à se voir de temps en temps. Donc, tant que j'ai continué à travailler, bah, ça a été, j'ai supporté, j'avais du social, j'avais. Et puis, dès que je suis tombée en maladie, les collègues de travail, on ne les voit plus, on n'existe plus. En plus, je m'étais mis à boire. J'ai bu pendant 10 ans.
Mmh.
Et je les appelais un petit peu à n'importe quelle heure. Donc, ils ont tous coupé les ponts, sauf cet ami. Puisque maintenant je l'appelle comme ça. Et puis bon, encore maintenant, je les vois. Je les ai encore vus mardi dernier, mais quand je le vois, c'est une véritable torture. Quoi.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que pendant toutes ces années, vous avez espéré qu'il quitte sa femme ?
Ah non, il me l'avait dit au bout de 3 ans, il m'avait dit que non. Mais il a toujours continué à venir. Ensuite, moi, j'ai acheté une maison. Et puis bon, il a tapissé, il a fait des peintures,
Ah oui, il y avait quand même
dans cette maison. Oui,
il était investi quand même auprès de vous, alors.
Ah oui, tout à fait. Il a dit, écoute, je vais pas quitter ma femme après tout ce qu'on a construit ensemble. Enfin, il avait un petit garçon à l'époque. Enfin, maintenant, le petit garçon, il a 40 ans.
Le piège d'une situation pareille, c'est qu'il vous donne suffisamment pour que vous soyez accrochée, mais pas assez pour être heureuse, quoi.
Voilà. Bon, c'est-à-dire que quand il partait en vacances l'été et tout ça, je restais chez moi à attendre un coup de téléphone qui venait jamais, quoi. Donc, puisqu'à l'époque, on n'avait pas les portables comme maintenant, faut dire. Donc, la cabine, il ne pouvait pas parce que sa femme l'aurait vue. Et donc, disons que je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, à part eux. J'ai perdu mon frère il y a 11 ans. J'ai perdu mon filleul il y a 12 ans. Il avait 25 ans. Sa mère ne me parlait pas, donc j'ai appris son décès sur Facebook. Je ne vous dis pas le choc.
Votre filleul, c'était l'enfant de qui ?
C'était une voisine, une petite voisine. Je l'ai connue, elle avait 4 ans, j'en avais 10. Sa mère, elle était alcoolique. Donc elle venait souvent chez nous. Chez mes parents, entre guillemets, adoptifs, parce qu'on n'a pas été adoptés, on a été donnés, mon frère et moi.
Comment ça donner ?
Disons que ma mère biologique, quand mon frère est né, est allée voir une nourrice, qui est la dame qui nous a élevés jusqu'à ce qu'elle meure, jusqu'à ce qu'on soit grand. Et c'est ma grand-mère biologique qui payait la pension de mon frère. Et cette nounou, elle avait déjà 3 autres enfants qui avaient perdu leur maman et son premier mari qui avait été amputé d'une jambe. Et donc, quand 2 mois après, j'allais pointer mon nez, elle est allée voir la nounou en lui disant « mais pour elle, ma mère ne veut pas payer, donc c'est gratos, quoi, c'est gratuit. » Donc la nourrice a dit je peux pas, j'ai déjà le garçon, j'en ai 3 autres, plus mon mari qui est malade. Donc ma mère biologique a dit, si vous prenez pas la fille, je reprends mon fils et puis je les mets à la DAS. Donc du coup, il y a beaucoup de non-dits, donc j'ai jamais su le fin mot de l'histoire.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu bizarres dans ce récit.
Comment elle a connu la nourrice et tout ça, enfin voilà. Donc, elle m'a pris quand même, enfin voilà.
Mais ça veut dire que vous ne rentriez jamais à la maison ?
À la maison, c'est-à-dire ?
Chez votre mère biologique ?
Ah, jamais, jamais.
Jamais.
Je suis censée ne jamais l'avoir vue. C'est que quand j'ai eu 16, 17 ans, j'ai su où elle travaillait. Et une fois, je suis allée voir. Bon, j'ai vu qu'elle m'a reconnue, mais elle a pas voulu me parler, quoi.
Et votre
père ? Donc, je l'ai vue qu'une fois.
Votre père biologique ?
Ah, je ne sais pas qui c'est.
Vous ne savez pas non plus, oui.
Je ne sais pas. Mon frère et moi, nous n'avons pas le même père.
D'accord.
Et donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Et donc, par contre, tous les ans, ce que j'ai toujours voulu, ce que j'appelle ma mère, parce que c'est quand même elle qui m'a nourrie et élevée, on allait chez ma grand-mère biologique. Elle nous invitait à manger.
Mmh.
Et si je vous disais que ma première angoisse, je l'ai eue à l'âge de 5 ans. Avec mon psychiatre, on a remonté à l'âge de 5 ans.
Qu'est-ce qu'il y a
Et
eu à ce moment-là?
pourquoi?
Oui, pourquoi?
Parce que bah, mon frère, lui, il était jovial, il était toujours heureux, il riait, alors que moi, bah, toujours méfiante, toujours terrorisée. J'étais sur les genoux de mon père, je ne bougeais pas. Parce que un petit peu avant de partir, elle mettait deux billets avec le prénom de mon frère et le mien. Et celui qui était tiré au sort, bah, il devait rester là-bas chez eux. Et comme par hasard, ça tombait sur moi à chaque fois. Et donc une fois, ben, j'ai tellement eu peur que c'était en campagne, je me suis enfuie et ils m'ont retrouvée dans les blés. J'étais pas haute comme trois pommes, donc les blés étaient plus hauts que moi. Et ils ont mis plusieurs heures à me retrouver parce que je m'étais sauvée, je voulais pas rester là, je voulais absolument pas rester là. Donc,
De quoi avez-vous si peur?
ben parce que je les haïssais, je sais pas pourquoi. Comment j'ai pu éprouver de la haine, parce que je sais que c'était de la haine à 5-6 ans. Je ne voulais pas rester là-bas. J'avais toujours cette peur, vu que c'était toujours mon oncle qui était tiré au sort. Je ne voulais pas rester avec eux là-bas parce que le grand-père bah, il disait, de toute façon, bah, mes parents qui m'ont élevé. Si vous avez autant de mal avec eux que moi j'ai eu avec leur mère, je vous plains, mais vous inquiétez pas, on les reprendra jamais, enfin tout ça. Et puis ma mère biologique n'a jamais voulu nous abandonner non plus, comme ça elle touchait des allocations familiales en plus,
Oh là
voyez.
là, c'est
Bon.
glauque ça, oui.
Ah non, mais c'est bon, je vous raconte ça, mais il y a plein de non-dits, il y a plein de non-dits, parce que j'ai toujours dit pourquoi. Et comme je disais à ma mère, si tous les ans comme ça, elle venait avec un autre enfant, avec le chantage, je vous reprends les deux autres, tu les aurais tous pris. Il fallait bien que ça s'arrête. Bon, je sais pas, j'ai pas compris. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que bah, le premier mari de la nounou, donc il est décédé, j'avais 1 an, moi je l'ai pas connu. Et donc, pour pas qu'on lui enlève ses enfants, vu qu'elle en soignait trois, bon, eux, ils avaient leur père, hein, la mère était décédée en mettant la petite dernière au monde, que je fréquente encore maintenant, hein. Et donc, pour pas qu'on lui enlève ses enfants, mon frère et moi surtout, elle s'est mariée avec un autre monsieur.
Un peu le premier venu, non?
Voilà.
Oui. Anne,
Comment elle l'a connu, j'en sais rien.
excusez-moi, on doit marquer une courte pause.
Oui?
Je vous récupère dans 30 secondes, vraiment, juste
Je
très
vous en
vite.
prie, oui.
Merci beaucoup, à tout de suite.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Oui, Anne, pardon.
Oui, non, je vous en prie.
Ce que j'étais en train de me dire, c'est que, bien sûr, on va prendre le temps de parler de tout ça, mais vous avez déjà compris à cause de cette enfance, vous avez souffert de cette blessure d'abandon qui vous a coincé pendant 30 ans, plus de 30 ans, dans une relation non satisfaisante avec un homme, quoi.
Tout à fait.
Comme si vous n'aviez le droit de ne prendre que ce qu'on vous donne.
Voilà, mon psy dit que je me suis jamais donné le droit d'être heureuse.
Eh oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous me disiez que cette nounou, pour ne pas qu'on lui enlève ses enfants, a épousé un peu le premier venu.
Voilà, donc le problème, c'est qu'elle l'aimait pas, elle le cachait pas. Elle lui disait, mais le pire, c'est qu'elle le battait.
Oh là.
Donc, je devais avoir dans les 10, 11, 12 ans, j'en sais rien. Bah, c'était la bagarre, mais les grosses bagarres, quoi.
Mais
Et...
rassurez-moi, les enfants, elle les touchait pas.
Non, 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 non,
Non.
non, 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 non.
C'était
Enfin,
que...
quoi que.
Ah.
Moi, des fois, si une fois, elle m'a tiré par les cheveux dans la cour, et puis. Mais parce que c'était un peu mon frère, le chouchou, et puis une autre des filles qu'elle avait soignées. Ces deux-là, il fallait pas y toucher, quoi. Si mon frère, il avait décidé de s'asseoir sur cette chaise-là et que moi j'y étais, il fallait que je bouge, quoi. Donc, enfin voilà, et puis j'obéissais. Et puis donc j'avais peur des week-ends parce que mon père travaillait pas le week-end. Sauf, bon, il travaillait sur les chantiers navals, donc quand il y avait un lancement de bateau, il travaillait les samedis et le dimanche, c'est malheureux. Je dis c'est malheureux parce que, Et puis, sinon, tous les samedis et les dimanches, c'était la bagarre. C'était la bagarre, mais violent, c'était...
C'est étonnant que vous l'appeliez votre père, ce monsieur.
Pour moi, c'est mon père, puisque c'est lui qui m'a nourrie. Moi, j'ai connu que lui.
Oui, oui.
Moi, c'est mon père.
Mais vous me dites, elle a un peu choisi par défaut, quoi.
Voilà. Comme elle, je l'ai appelée maman. C'est pareil. Mon frère, lui, il est parti à 17 ans parce que, en plus, disons que c'était notre génération. Moi, quand je suis née, ce que je vais appeler, pas ma mère biologique, mais ma mère nourricière, on va l'appeler comme ça, elle avait 40 ans. Donc, il y avait déjà une génération, ça aurait pu être ma grand-mère, quoi. Donc mon frère a 17 ans, lui il est parti dans les Alpes-Maritimes parce qu'il dit, pour reprendre son expression, ils vont nous bouffer parce que possessif, quoi, vraiment chronophage. Donc lui il est parti et puis moi je suis restée. Et quand j'ai rencontré ce monsieur, j'avais pris un appartement et puis...
Ce monsieur, vous parlez de votre collègue là?
Oui, mon ami, mon...
Oui, votre... L'homme, on va dire l'homme.
L'homme, voilà. Et donc, il avait dit, écoute, je veux bien, mais il faut qu'on parte. Je reste pas ici, on part à Paris, on part où tu veux. Mais je dis non, écoute, moi je reste près de ma mère, elle m'a élevée. Si elle m'avait pas élevée, j'aurais été au ruisseau, et puis je veux pas la laisser toute seule. Et puis donc... lui il est resté avec sa femme avec mon père, c'est lui qui faisait les courses, même après le travail, il faisait à vélo, il n'avait pas de voiture, donc il faisait les courses à vélo, il faisait tous ses caprices. Lui il l'aimait sincèrement, comme elle disait, elle le savait, elle dit c'est trop chaud, c'est trop froid, où je marche, il ferait n'importe quoi pour moi, et ce qui était vrai. Il faisait tous ses caprices. Et elle l'humiliait, elle l'insultait, elle a été ignoble. Et donc mon frère, il est parti, moi j'ai pas voulu partir, et puis donc, après quand mon père est décédé, il est décédé à 72 ans. Et elle a voulu faire pareil avec moi, quoi. Et puis il fallait que tous les dimanches je sois là. Je travaillais toute la semaine, je commençais à 7h30 le matin, je gardais mon chien, d'accord, mais j'amenais mon chien le matin, je le reprenais le soir. Et puis il fallait que je fasse les courses, il fallait que le dimanche je sois là, mais à 14h. J'aimais bien faire les brocantes, si j'arrivais à 16h. Elle me faisait la tête, je n'avais pas un mot.
Mais quand vous dites qu'il fallait, qu'est-ce qui serait passé si vous aviez refusé?
Je ne sais pas. Je sais pas.
Vous n'avez jamais refusé?
Non, je n'ai jamais refusé. J'ai toujours fait ce cas de volonté. Quand il y avait du vent, elle avait peur, il fallait que j'amène chez moi tous les week-ends, le vendredi. J'habitais à 500 mètres. Il fallait qu'elle vienne chez moi le vendredi et moi je la ramenais chez elle le dimanche. Donc, j'avais jamais un week-end pour moi.
Vous voyez, ce qui me saute aux yeux d'un seul coup, c'est qu'en vous écoutant, je me demande si plus ou moins consciemment, ça ne vous arrangeait pas cette demi-relation avec l'homme, comme on l'appelle, parce que vous étiez disponible pour votre mère. C'est un peu comme si peut-être vous n'aviez pas osé avoir une relation à temps plein, finalement. Vous voyez ? Si vous aviez trouvé un homme vraiment disponible pour vous, vous n'auriez pas été dispo pour elle.
Une fois, je lui avais dit, parce que on s'était disputé, et puis j'avais dit, ça continue, je vais appeler l'autre fille qu'elle avait élevée aussi. Elle dit non, tu ne dois pas l'embêter, elle est mariée, elle a des enfants, mais si moi j'avais des enfants, toi tu n'as pas besoin de ça. J'ai dit oui, mais quand tu ne seras plus là et que moi je vais être tout seul, on m'a dit tu vas te débrouiller, je ne serai plus là pour le voir.
Quel égoïsme!
Mais écoutez, maintenant, ça fait, 4-5 ans que vraiment, je n'arrive plus à aller au cimetière, pourtant j'habite tout près, alors que j'y allais tout le temps, et je suis en colère contre elle. Je suis en colère contre elle. Et puis, Et puis tout ça, ça remonte à la surface maintenant, arrivé à mon âge.
Parce que vous l'autorisez enfin. J'allais vous dire, être en colère contre elle, ben, il est temps, peut-être, non ? Vous ne croyez pas ?
Bah oui.
Vous en avez accumulé beaucoup, hein ?
Oui. Parce que disons, elle était à double face devant moi. Bon, mon frère, c'est vrai qu'il était hyper intelligent, c'est vrai. Bon, moi, je ne suis pas bête, mais bon.
C'est un petit peu plus dur
à la détendre, quoi.
Ça veut dire quoi, ça ? Que les gens intelligents, on les aime davantage ? Ben non.
Ben, je sais pas, mais bon,
ben... Moi, je vous le dis, non.
J'étais moche, j'étais grosse. J'étais bête. Voilà, c'était les mots qu'on me disait, quoi. Mais tes lunettes, t'es moche. Ou bien, je sais pas.
Ouais, humiliation bon, après, sur humiliation,
quand j'ai toujours des humiliations, quoi, bah, comme elle avait fait avec mon père, hein, mais même mon père aussi me le disait des fois, oh, t'es moche, t'as... Et puis...
Et jamais, jamais vous vous êtes rebellée, jamais vous n'avez dit quoi que ce soit.
Ah si, une fois j'ai pris une colère monstre, j'ai pris un verre, je n'ai pas voulu lui mettre à la figure, je l'ai jeté comme ça, près de ses pieds, et puis bon, bah, tout de suite, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à dire « oui, t'as voulu me frapper ». Je dis « non, il fallait que je casse quelque chose », je dis « parce que sinon, je te mettais une claque ».
C'était le verre ou toi, quoi, oui.
Je ne te supportais plus. Et c'était... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu encore une autre fois. Parce qu'une fois, mon psy aussi dit, bah oui, mais c'est pas aussi, si vous faisiez ça, c'est parce que vous deviez y trouver votre avantage à faire tous ces caprices. Bon, bah, je dis peut-être, mais
c'est
bon...
C'est un peu simplifié. Moi, je pense que c'est plutôt un mode de fonctionnement que qui était le seul que vous connaissiez, en fait. On vous a tellement fait croire que vous n'avez pas de valeur,
voilà,
que vous avez fonctionné comme quelqu'un qui n'a aucune valeur.
Voilà.
Et qui fait ce qu'on lui dit de faire et qui accepte ce qu'on lui dit d'horrible.
Voilà.
Et maintenant qu'elle n'est plus là, vous avez ce recul qui vous permet de vous dire bah « ben non, attends, il y a un truc qui ne va pas, là ».
Alors, en plus, mon pauvre frère, il avait de l'asthme. Et puis, bon, ben, moi, je ne vois que d'un œil. Bon, je ne suis pas... disons que quand j'étais bébé, j'ai fait la rougeole et la coqueluche en même temps. J'ai fait des convulsions. Et j'ai perdu un... J'ai été aveugle dans l'histoire. Bon, à l'époque, c'était des sœurs qui nous soignaient. Hein, je ne sais pas, je suis née en 59. Mm-hmm. Et donc, j'ai récupéré, au bout d'une quinzaine de jours, d'après ce qu'on m'a expliqué, j'ai récupéré un peu de vue. Et donc, bon, bah, j'ai un dixième d'un œil et j'ai trois dixièmes de l'autre, quoi. Bon, enfin, je suis rectifiée à 10 sur un œil, quoi. Donc, et mon frère, lui, il avait une pointe d'asthme, quoi. Enfin, il a profité de ça pour pouvoir aller dans les Alpes, soi-disant pour se faire soigner. Mais il a dit, c'est parce que je voulais partir. Je voyais très bien comment ça allait tourner. Et puis, toi, t'aurais dû partir aussi parce que ils vont t'exploiter jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et puis encore une chose qui m'a choquée, je me rappelle, j'avais 20 ans, je travaillais déjà, et puis le week-end, je rentrais chez mes parents. Et un jour, on vient sonner, et ma mère, elle m'appelle. C'était ma tante, la sœur de ma mère biologique, qui venait nous annoncer le décès de notre mère. Et je dis bon bah oui et alors
oui
bon,
c'est un peu abstrait pratiquement
voilà mais bien sûr après l'enterrement pour pas qu'on puisse aller à la messe faire scandale parce qu'on devait pas être connu quand on allait voir chez les grands-parents parents devaient dire qu'on était leurs enfants et surtout pas les enfants de sa fille quoi. Alors les gens bêtes comme ils sont, ben moi je ressemblais tout à fait à mon père et mon frère ressemblait tout à fait à ma mère alors qu'on n'avait absolument rien à voir. Mais bon, tout le monde était content donc ça allait bien quoi. Donc déjà ça m'énervait aussi. Et puis bon c'est tout. Cette femme elle avait annoncé le décès de notre mère. Bon c'est tout. Mais le problème c'est qu'après on est convoqué chez un notaire. Et mon frère et moi, on a dû payer la moitié de l'enterrement de notre mère biologique, qu'on n'a jamais connue.
En plus ?
En plus.
Oh là là, oui.
C'est-à-dire que ma grand-mère avait une maison. Bon, une petite maison qui valait pas grand-chose, hein, mais bon, 10 millions de francs anciens, quoi. Et donc, il y avait la moitié pour les deux filles. Mais comme ma mère était décédée, mon frère et moi, on a eu la part de notre mère.
Donc, avec ça, vous avez pu régler l'enterrement ?
Voilà. Oui. Mais enfin, qu'on nous réclame l'enterrement d'une femme qui nous a abandonnés, j'ai trouvé ça un petit peu gros, quoi.
Ouais, moi aussi, je trouve ça un peu gros, oui.
Donc, ça ne s'est pas passé non plus.
Ouais.
Donc, il y a eu toutes des choses comme ça. Et puis maintenant, j'ai plus personne. J'ai plus mon frère, j'ai plus mon filleul. Sa mère, donc je m'étais toujours occupée parce qu'elle a été alcoolique et puis sa mère est alcoolique et elle est devenue alcoolique également. Je l'amenais chez le psy, je l'amenais chez l'addictologue et tout ça. Et puis après elle s'est mariée, elle a eu une fille. Et puis sa fille m'a manqué de respect, on s'est disputé et puis voilà, on s'est plus parlé. Alors que on se connaissait depuis. Et puis voilà, j'ai appris le décès de son fils sur Facebook, je vous dis pas le choc. Mmh. Donc ça a été un autre traumatisme, c'était en 2012. Et puis là, j'ai commencé à sombrer carrément. Donc mon frère, lui, il est décédé en 2011. Alors en 2012, j'étais allée le voir, on ne s'était pas parlé depuis le décès de ma mère, parce que quand elle est décédée, pareil, qu'est-ce qui s'en est occupé ? C'est moi et puis l'autre fille quand même qu'elle avait élevée aussi. Mmh. Et puis mon frère, il habitait dans les Alpes-Maritimes. Il est venu pour l'enterrement et puis il m'a reproché de ne pas l'avoir prévenu que ma mère allait mourir. Mais j'ai dit, attends, je ne le savais pas.
Mmh.
Le médecin avait dit qu'on allait au pire l'amputer, elle avait une artérite. Hein. Et il est venu, il m'a fait une vie d'enfer. Il m'a insulté de tous les noms, il m'a... Donc j'ai dit, écoute, je ne veux plus te voir. Et puis on ne s'est plus parlé pendant 18 années.
En revanche, l'autre fille dont vous parlez, vous êtes toujours en lien avec elle ?
Plus maintenant, elle m'a lâchée aussi depuis 2019. Parce que comme j'avais mes angoisses étaient de plus en plus fortes, je lui ai demandé de me conduire un petit peu partout pour faire mes examens médicaux. Et puis je l'ai payée. Hein. Elle n'a jamais rien fait pour rien. Et puis, deux jours au lendemain, je devais aller voir le psy. Je ne pouvais pas conduire parce que j'ai des médicaments niveau 3. Hein, je suis quand même à 12 anxiolytiques par jour.
Oula.
Oui. Et donc, elle n'a pas voulu parce qu'elle devait aller faire une belote. Et puis, depuis ce temps-là, c'est terminé. Je ne l'ai pas vue depuis 2019. Donc voilà, encore un abandon. Et donc maintenant, j'ai commencé à avoir un psy en 93.
Voilà, hein, c'est la question que je me posais, parce que là, on fait le point sur tout ce qui était négatif.
Ouais.
Mais pour sortir de là, qu'est-ce que vous avez mis en place ?
Pas grand-chose, parce que j'ai vu ce psy en 93. Je suis allée pour des TOC que j'avais, et que j'ai encore d'ailleurs.
C'est de l'angoisse. Hein. C'est de l'angoisse et un besoin de contrôle, les TOC.
Ouais, mais j'avais des tocs aussi. Hein. C'était j'allais au bureau. Heureusement que je travaillais à 5 km de chez moi. J'arrivais au bureau, je retournais chez moi voir si j'avais éteint la cafetière ou si j'avais bien fermé la porte.
Mmh.
Donc
oui, je vous dis, c'est
j'ai commencé pour ça.
Ouais.
Mais c'était un petit peu l'alibi, c'est-à-dire qu'en réalité, je voulais parler de cette liaison douloureuse que j'avais avec mon ami, parce que je continue à le voir. Donc,
Si je comprends bien, vous continuez à les voir en plus.
Je continue à les voir, mais oui. Pendant un moment, je travaillais au service technique avec lui, et j'ai dit, écoute, le soir, j'en peux plus te voir tourner à droite et moi à gauche pour entrer à la maison. Je vais changer de travail et je vais aller en boutique, quoi. Pour qu'on se voit moins. Mais il a continué à venir quand même manger et puis venir me chercher. Et puis, donc, on se voyait quand même tous les jours. Et dès que j'étais en récupération ou en congé, il venait. Donc c'est comme si j'avais rien fait, quoi. Et ça, j'ai jamais osé en parler à mon psy parce que je sais pas.
Vous me dites que c'est pour ça que vous y alliez principalement.
Oui, mais j'ai jamais réussi à lui en parler parce que je le trouvais froid. Donc il m'a fait la TCC.
Thérapie.
Et ça m'a pas aidé du tout.
Parce thérapie que, cognitive et comportementale. Oui.
Oui, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai des idées erronées, des choses comme ça. Bon, j'en suis consciente. Mais alors maintenant, le problème, c'est que en 2019, arrivé au moment de Noël, parce que mon ami avait dit, du temps où on parlait de vivre ensemble, c'est le dernier Noël que tu passeras toute seule, parce que là, je finis de payer encore un prêt, et après, je laisse ma femme et je viens.
Ah.
Donc, tous les ans à Noël, je vous dis pas, c'est catastrophique. Et je sais pas ce qui s'est passé en 2019, parce qu'il a 11 ans de plus que moi. Et à partir du moment où il a eu 70 ans, j'ai commencé à avoir peur de le perdre, qu'il meure, tout simplement. Mmh. Et donc, s'il me reste que lui et mon chien, j'ai un chien qui a 14 ans. Et donc, j'ai dit, comme je ne veux plus souffrir, j'ai tout ce que j'aimais. Parce que même ma mère, même ceux qui m'ont fait du mal, je les ai aimés. J'ai toujours été là pour eux, j'ai toujours aidé tout le monde. Et j'ai pour pas finir toute seule, pour être sûre qu'ils vont me survivre, je vais me suicider. Donc c'est en 2019, j'avais pris un cache-nez, j'avais serré autour de mon cou et j'ai vu que il fallait pas grand chose pour que ça commence à fourmiller dans la tête. Donc j'ai dit ok, ça va aller. Et je me suis agenouillée devant mon chien. J'ai mis le cache-nez autour de son cou. Et comme c'est une petite fille qui est coquette, elle a cru que c'était un cadeau. Et puis elle s'est mise à me lécher les mains. Et puis j'ai éclaté en sanglots.
Elle vous a ramené à la vie.
Et le lendemain, j'ai appelé mes amis. Je leur ai expliqué. Et puis j'ai dit, il faut que j'aille en hôpital psychiatrique. Mmh. Je suis tombée dans le public. Ça a été une catastrophe. Je suis restée 2 semaines. Ils ne voulaient pas de moi, d'ailleurs. Et depuis, ça fait maintenant... mardi, je rentre encore une fois. Ça fait 5 fois que je vais en hôpital, en clinique psychiatrique. C'est privé. Hein. Ça me coûte un bras, mais bon. Et
est-ce que ça vous fait du bien, là, au moins?
Non. À chaque fois que je vais, je sors encore plus amoché quand je suis rentrée.
Pourquoi ?
À part changer le traitement, il y a 4 psys. La première fois que j'y suis allée, j'ai vu les 4. La première fois que je suis sortie de là, je suis sortie avec 300 mg d'anxiolytique. J'ai fait 2 accidents de voiture dans la semaine.
Ah il faut éviter de conduire quand on a autant d'anxiolytiques dans
Oui, mais comment faire ? Quand je vais aller avec mon chien chez le vétérinaire ou des choses comme ça, ou faire des courses, ou à l'époque je faisais encore les courses. Et puis pareil, j'ai jamais parlé de cette relation que j'avais. Et puis dans les 4 psys, j'en ai trouvé un qui est sympa. Donc son cabinet, il est en face du cabinet, dans le même bâtiment, mais en face du bureau de mon ancien psy. Donc, il ne voulait pas me prendre comme patiente, mais je dis, tant pis, après tout, j'ai le droit de changer, quoi. Et puis, parce que le psy que j'avais avant, le premier, il faisait de l'hypnose. Mais j'ai demandé qu'il m'en fasse, il dit non, je suis franchement pas douée, j'ai aucun résultat avec l'hypnose, donc il dit je vais pas vous en faire. Donc il m'a fait par contre une séance de MDR, et le deuxième psychologue que j'ai pris là maintenant depuis 2020, donc celui de la clinique où je vais encore rentrer mardi, où je suis déjà allée 4 fois, Là, c'était donc en 2020. Toujours pareil, je pleurais. C'est un jour, et il y avait un gentil infirmier, il est venu. Et je ne sais pas pourquoi, à lui, je lui ai fait confiance et j'ai tout déballé.
Ah, c'est formidable.
J'ai tout déballé.
Enfin, vous avez lâché, c'est sorti.
Voilà, c'est sorti. Et alors, il me dit, est-ce que je peux en parler à l'équipe? Alors, j'ai dit non, Thibault, il s'appelle Thibault. Pas un tel, mais tu peux dire un tel, parce qu'il y a des infirmières que j'aimais franchement pas. Donc du coup le lendemain, comme on voit les psys tous les jours, enfin 2 minutes, hein, et c'était justement avec Thibault que j'ai vu mon psy. Il m'a regardé, il m'a dit est-ce que je peux en parler? J'ai dit oui, au docteur là, tu peux lui en parler. Donc il a tout raconté. Bon. Alors il me dit, et c'est maintenant que vous me dites ça.
Bah oui,
depuis le temps. Donc je sortais malheureusement. Donc après, moi, de toute façon, je vais deux fois par an, hein, 2-3 fois par an. Et donc là, la dernière fois que j'y suis allée, c'était pour Noël, toujours pareil. Et là, on a fait 12 séances sur MDR. Mais comme il dit, il y a encore du boulot parce que toute votre vie est un traumatisme. Alors il dit, il y a encore du boulot à faire.
Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en phase de nettoyage, là, justement.
Enfin. Mais le problème, c'est qu'après, disons qu'ils font, vous devez savoir sûrement comment ça se passe dans les cliniques psychiatriques. Il y a quand ils changent d'équipe, quoi. Donc ils se racontent de ce qui se passe dans la journée, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, et puis voilà. Ils appellent ça la transmission. Et puis, d'un seul coup, tout le monde venait taper à la porte de ma chambre. J'étais devenue la femme à barbe, quoi. Vous êtes restée si longtemps avec le même homme, vous avez connu qu'un même homme, et là, ça n'a plus été du tout. Donc, quand j'ai vu mon psy, dans son cabinet ici, dans ma région, il dit, ça vous a fait du bien de parler, tout ça. J'ai sur le coup, oui, mais si après coup, non. Donc, je lui ai raconté. Sinon, parce qu'après, je suis devenue la femme à barbe. Ils sont tous venus taper à ma porte. Donc, il dit, vous vous êtes sentie trahie. Je suis tout à fait.
Mais alors, attention à quelque chose, Anne. Et là, je vais mettre le doigt sur un truc important. Vous interprétez énormément. Vous voyez, là, vous dites, les gens sont venus vous voir. J'étais la femme à barbe. Pourquoi ne pourriez-vous pas envisager qu'ils sont venus vous voir parce qu'ils avaient envie de vous aider? Et vous savez pourquoi je vous dis que vous interprétez? Parce qu'on m'a fait lire le message que vous avez mis sur la page Facebook de l'émission ce matin, tout à l'heure. Vous vous souvenez?
Non. Ben si laquelle
vous... la page de l'émission de la Libre Antenne. Vous avez écrit un petit mot, pas très aimable, parce que vous étiez furax que hier soir on ne vous ait pas prise.
Oui.
Alors qu'à l'antenne, j'ai dit qu'il y avait de la place. Or, c'est précisément parce qu'on n'a pas réussi à vous joindre que j'ai dit qu'il y avait de la place.
Mais si, parce que j'ai un téléphone où il y a la présentation du numéro. Donc quand on m'appelle, automatiquement le numéro s'affiche. Et votre numéro qui s'affiche.
Anne, je peux vous garantir qu'il y a eu un bug hier soir, puisque moi j'avais votre fiche et j'attendais qu'on vous ait en ligne. Et donc vous avez immédiatement interprété ça contre vous. Vous avez même écrit, c'est parce que j'ai 63 ans. Donc je vous mets en garde. Attention de ne pas interpréter les choses toujours contre vous, ça n'est pas le cas. En l'occurrence hier soir, il ne s'est rien passé contre vous. Il y a eu un malentendu, on n'a pas réussi à vous joindre. Moi, j'ai pensé que vous n'étiez pas au bout du fil. C'est tout.
Donc, le numéro ne s'est pas affiché. Et quand on m'appelle, le numéro s'affiche, comme tout à l'heure.
Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que votre manière, votre détresse fait que vous interprétez beaucoup de choses contre vous. Et que vous mettez de l'huile sur le feu en faisant ça à chaque fois, vous voyez. Vous avez l'impression que parce que tous ces gens sont venus vous voir, c'était forcément pour vous juger.
Pas me juger, mais ils étaient étonnés. Comment c'est possible de connaître qu'un seul homme dans sa vie? Comment vous avez fait? Et qu'est-ce que vous voulez que je raconte de ça?
Ça aurait pu être l'occasion de vous confier, justement.
Oui, mais c'était une infirmière que j'aimais pas, donc avec qui j'avais eu des problèmes. Parce que ils sont pas tous... Donc là, bon, bah, comme là, mardi, bah, je pars. Bah, j'ai peur de ne plus retrouver mon chien. J'ai peur que ma chienne décède. En plus, ce matin, elle a rendu. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes amis. J'ai peur, voilà. Donc j'ai toujours peur de perdre le peu qui me reste.
Mais en dehors de ces périodes d'hospitalisation, est-ce que vous avez un suivi régulier avec quelqu'un?
Bah, je vois le psy une fois tous les 15 jours, voire tous les mois,
C'est
mais
pas
c'est
possible.
toujours pour changer le traitement, comme là, il m'a encore rajouté des médicaments.
Oui, mais ça, c'est pas une thérapie, ça.
Ben non.
Eh oui.
Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est ça que je voulais vous parler de ça aussi. Bon, ben ça n'a rien à voir avec la clinique ni avec les thérapeutes que j'ai, enfin les psychiatres. J'étais allée voir un thérapeute près de chez moi qui faisait de l'hypnose. Donc, je suis allée le voir il y a quelques années de ça, il y a bien 5 ans. Et il m'a fait une séance MDR, une séance d'hypnose, tout s'est bien passé. Et la deuxième fois, et il m'a refait une séance MDR, parce que là, ça va. Et après, il m'a dit, maintenant, pendant 1 mois, vous ne ferez rien. Vous ne lisez pas, vous ne faites pas le ménage, vous ne faites rien, absolument rien. Et vous imaginez votre chien et vos amis qui décédés.
Quoi?
Il m'a dit ça, oui. Et il m'a lâché comme ça dans la nature. Je suis arrivée chez moi, un jour, 2 jours, 3 jours, j'ai pété les plombs au bout de 3 jours.
Vous imaginez vos amis décédés, c'est ça qu'il vous a dit?
Il m'a dit, pendant 1 mois, vous ne faites rien, vous ne lisez pas, vous ne regardez pas la télé, vous ne faites absolument rien. Et vous imaginez votre chien et que vos amis soient morts, sont morts.
Ça me paraît énorme, ça. J'ai un peu de mal. Enfin bon.
Alors du coup, comme j'étais mal de chez mal, j'ai appelé mon psy. Il m'a pris un rendez-vous d'urgence. Je lui ai expliqué. Il m'a demandé, donnez-moi sa carte. Il dit pour moi, il dit c'est pas un... Il dit c'est marqué thérapeute. Il dit pour moi c'est pas un médecin. C'est pas
Bien
un
sûr.
hypnothérapeute comme vous, quoi. C'était simplement marqué thérapeute. Et dit en plus, il dit, il aurait dû vous de demander d'imaginer un lieu de sécurité.
Ah oui, tout à fait.
Bah oui, j'ai acheté le livre bah alors je sais même pas le dire, s'hypnotiser
S'auto-hypnotiser.
soi-même, enfin voilà.
Oui.
Donc mon psychiatre a dû me faire une séance à moitié EMDR pour dire de me remettre un petit peu. J'étais mal de chez mal, hein.
Vous êtes particulièrement mal tombé, là, j'ai l'impression.
Ah oui, donc il dit surtout n'allez plus le voir,
Ben
hein.
non.
Il dit n'allez plus voir des gens comme ça. Il dit bah j'ai oui, mais je dis bon bah vous faites de l'hypnose mais vous voulez pas m'en faire. Bah j'ai moi j'ai trouvé près de chez moi et puis bon bah j'ai lu des commentaires. Ah bah oui, les gens avaient arrêté de fumer, les gens. Mais il dit oui, mais vous c'est pas le même problème. Il dit vous imaginez ce qu'il vous a fait faire sans lieu de sécurité.
C'est une
Donc
aberration, évidemment une aberration.
Voilà, donc maintenant, bah je sais pas, là, mon psychiatre que j'ai, je l'ai vu avant-hier. Je lui ai dit, si vous allez me faire de l'EMDR et de l'hypnose, il n'a pas répondu. Parce que j'ai fait, donc j'ai dit de l'EMDR, j'ai aussi fait de la RTMS.
Ah,
Je
qu'est-ce
sais
que c'est
pas.
que ça?
C'est de la résonance magnétique transcrânienne.
Oula, ça fonctionne comment?
Bah disons que c'est une bobine qui vous met sur le cerveau. Et qui envoie les impulsions magnétiques sur les neurones,
D'accord.
soit pour les stimuler, ou alors pour les rabaisser. Donc moi, j'ai fait 20 séances l'année
C'est
dernière.
pas du neurofeedback, ça?
Je ne sais pas, ils appellent ça des RTMS ou de la TMS.
Bon. Et alors, 20 séances?
Alors j'ai fait 20 séances et puis bon bah le résultat, ils m'ont dit ça a stimulé, ça vous a redonné de l'énergie, mais malheureusement contre vous. C'est-à-dire que je me suis mis à me scarifier,
Mais
à me
oui.
jeter la tête contre les murs.
Parce que tout ce que j'entends là dans les thérapies qu'on vous a fait faire, ça a été pour régler les symptômes, les conséquences, mais pas la cause. On vous fait travailler sur les conséquences, c'est-à-dire l'angoisse, les tocs, le mal-être, mais pas l'origine de tout ça. Et l'origine de tout ça, c'est l'enfance.
Ben oui. Mais là, quand je suis allée voir mon psychiatre en 93, donc quand ma mère est décédée, elle est décédée en 93, j'avais, je sais pas, moi, 35 ans. Donc, je lui avais parlé, justement, de mon enfance et tout ça. Il a dit, écoutez, à votre âge, on ne va plus en arrière, on va en avant. Et pourtant, c'est un psychiatre réputé, il paraît que c'est un des meilleurs.
Mais oui, mais on va en avant quand on est prêt à aller en avant. Je suis assez d'accord avec le arrêter de chercher le pourquoi je vais mal, mais trouver le comment je vais mieux. Mais à un moment donné, pour trouver le comment je vais mieux, il faut quand même savoir pourquoi je vais mal. Donc il faut quand même, il ne s'agit pas de passer 20 ans à partir en arrière. Mais là, vous avez quand même un passé qui est lourd, avec beaucoup de traumatismes. Il y a quand même un grand nettoyage à faire.
Là, oui.
Mais je crains que vous ne soyez pas tombé sur les bonnes personnes, de ce que j'entends.
Oui, je sais bien.
Et puis
mais
ce psy qui vous dit je fais de l'hypnose, mais je ne fais pas parce que je ne suis pas bon.
Il a dit qu'il n'y a aucun résultat.
Dans ces cas-là, il
ne
faut pas qu'il dise qu'il le fait à ce moment-là. C'est un peu bizarre. Oui, c'est... Bon.
Pourtant, il a le diplôme, c'est écrit dans son cabinet et tout, donc je ne vois pas pourquoi. Et l'autre psychiatre que j'ai vu sur Internet, il faisait de l'hypnose aussi, il ne m'en a même pas parlé. Alors, je vais encore vous dire autre chose qui va vous faire bondir. Moi, je lui en veux pas. C'est-à-dire que à la clinique, j'ai eu une fois une très très forte crise d'angoisse et le psychiatre qui me demandait si je voulais une piqûre de tranxène. J'en pouvais plus, donc j'ai dit oui.
Anne, ce qu'on va faire, vous allez me raconter la suite. On doit s'arrêter le temps des informations.
D'accord.
On marque une pause et je vous récupère dans quelques minutes, d'accord?
D'accord.
Merci à vous, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Merci d'avoir choisi la Libre Antenne d'Europe 1 pour accompagner votre soirée. Il nous reste une heure à passer ensemble et vous pouvez continuer à nous appeler si vous le souhaitez. Vous faites le 39-21, vous tomberez sur Kelvin ou sur Nicolas qui vous guideront bien sûr jusqu'à moi. Et puis pour réagir par SMS comme vous le faites, 739-21, le mot nuit et votre message.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous retrouvons Anne. Merci d'avoir patienté, Anne.
Oui, non, je vous en prie.
Donc vous me disiez qu'on vous a fait une piqûre de quoi ?
De tranxène.
De tranxène.
Ouais. Enfin, je ne vais pas rester trop longtemps parce que je vois que sur Internet, il y a des gens que je saoule.
Ah, moi, je n'ai pas ça. Non, mais vous voyez, je vais quand même vous mettre le doigt sur quelque chose. Quand vous vous êtes énervée tout à l'heure sur notre site et que vous avez mis un commentaire pas très agréable, vous avez dit oui, le Vincent, il a squatté l'antenne pendant une heure. Vous vous souvenez d'avoir écrit ça ?
Non, j'ai dit, on m'a appelé à minuit et demi pour dire que Vincent, il avait bientôt fini, mais il est resté 1h30, donc je ne suis pas passée. Je ne sais plus, c'est un monsieur, il m'a dit, on va vous rappeler vendredi prochain.
Non mais Anne, ce que je veux dire, c'est quand vous avez écrit ça tout à l'heure, vous avez écrit, il a accaparé l'antenne et vous étiez très en colère. Or, vous vous rendez compte maintenant que quand on est à l'antenne, ça passe très vite le temps. Donc le jugement des autres, on s'en fiche, parce qu'ils ne sont pas concernés. Ok.
Ouais.
Donc les commentaires désagréables, vous les laissez passer, vous n'avez pas à les regarder, ça ne vous concerne pas et moi non plus. Ce qui compte, c'est vous et moi en ce moment, d'accord ?
Ouais.
C'est mon émission, vous êtes mon invité. Le reste, tout ce qui est négatif, on ne prend pas.
D'accord.
D'accord ? Okay. Il me semble que vous en avez assez pris comme ça du négatif pendant toutes vos années de vie. Hein
ouais.
Alors on laisse ça aux autres. Donc, c'est quoi cette histoire de piqûre de tranxène
ouais. Alors, l'infirmière est venue avec sa piqûre. Elle s'est assise à côté de mon lit et puis elle m'a dit, écoutez, je vais vous dire une chose. On s'est concerté avec les médecins. On ne sait plus quoi faire. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'appeler la Suisse pour l'euthanasie assistée. Mais je n'en veux pas.
Pourquoi ?
Je n'en veux pas parce que j'ai toujours, j'en peux plus, je vais mourir. Je veux mourir, je souffre trop, parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai appelé Olivier pour en parler, mais bon, ben, Olivier est plus journaliste, donc c'est pas... il est gentil, Olivier, mais il est plus journaliste, donc c'est pas tellement son rôle, ce genre de choses. Mmh. Et... parce que quand je demandais aux infirmières, mais est-ce que vous savez ce que c'est une angoisse ? Elles me répondent, bah non, on ne sait pas ce que c'est. Même les psychiatres, bah non, on ne sait pas ce que c'est. Bah, je dis, je vais vous expliquer ce que je ressens. Si tout le monde a déjà perdu un être cher, je crois que c'est arrivé à tout le monde un jour. Eh bien, chez moi, je ressens ça à chaque minute de chaque jour. C'est comme si que chaque minute de chaque jour, on apprenait le décès d'un être cher. C'est exactement ce que je ressens.
Je comprends. Alors, plus globalement, pendant les informations, je réfléchissais un peu à votre histoire. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui vous entourent et ce ne sont pas les bons. Je parle en niveau des médecins, des thérapeutes.
Bah oui.
Il y a trop de monde, mais il n'y a pas la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu trop de rendez-vous pendant lesquels vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas abordé le vrai problème. Une fois que vous l'avez abordé, ça a changé plusieurs fois d'interlocuteur. Il n'y a personne sur qui vous pouvez vraiment vous reposer, si je comprends bien.
Non.
Et c'est là qu'il faut trouver une solution.
C'est pour ça que je ne sais plus quoi faire et que bon, bah, je préférerais en finir.
Non, mais ça, c'est du chantage affectif. Anne, j'aime pas ça. Vous savez que j'en ai déjà parlé à l'antenne. Ça, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Moi, si vous voulez mourir, je ne peux rien faire pour vous. Si vous voulez vivre, alors là, je peux vous aider. Je vais être très claire là-dessus. Et je suis en colère parce que j'ai enterré un de mes meilleurs amis cette semaine et je vous assure qu'il aurait bien voulu vivre aussi, lui. Alors pardonnez-moi si je suis un peu en colère, mais je pense que...
Non, mais je sais, hein, je comprends.
J'ai du mal à entendre ça parce que...
On me l'a déjà dit, je sais.
Ce qu'il y a, c'est que... Je pense que c'est ce que je tente de vous faire comprendre depuis tout à l'heure, c'est que ce n'est pas la partie de vous lucide qui parle. C'est comme quand vous avez écrit ces commentaires sur la page. Il y a une partie de vous qui est perdue, qui est en colère et qui souffre. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écouter, cette partie-là, sur ses mauvais conseils. Le côté « j'ai envie de mourir », ce n'est pas vrai. C'est une partie de vous qui n'a pas de solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de solution. Il y en a des solutions. Il y en a. Il faut trouver comment vous aider pour les trouver, ces solutions. C'est ça qu'il faut faire. Si vous m'appelez pour me dire « je ne veux pas de solution et je ne veux rien faire », je ne peux rien faire pour vous, Anne. Si vous m'appelez pour me demander si je peux vous aider à trouver une solution, alors là, je peux vous aider à trouver une solution.
Mais comment, justement ? Là, je rentre après-demain en clinique, je revois les mêmes personnes.
Alors, pourquoi allez-vous retournez-vous systématiquement dans cette même clinique si ça ne vous convient pas ?
Parce que mon psychiatre travaille là et que j'ai peur que si je vais dans une autre clinique, il me donne des antidépresseurs et que je perde la vue parce que je ne peux pas prendre d'antidépresseurs.
Mais vous voyez, là encore, vous anticipez quelque chose de négatif. Et si, dans une autre clinique, vous trouvez quelqu'un qui vous prend vraiment en charge, qui vous comprenne vraiment ? J'entends que c'est compliqué, mais en même temps... Vous êtes systématiquement avec des gens qui ne vous font pas de bien et vous allez encore les voir et vous y retourner. Qui est-ce qui a choisi cette clinique d'ailleurs ?
Mon psychiatre, le premier psychiatre que j'avais. Mais comme il est son confrère, c'est le psychiatre qui travaille également dans la clinique, je suppose que...
Attention aux suppositions.
Parce qu'après, il m'a dit oui, bon, ben, il y a d'autres cliniques. Parce qu'après, il me parlait de faire de la sismothérapie, des ECT. Alors, j'ai dit bon, je veux bien essayer. Ça fait quand même 2 anesthésies par semaine. Il y a 14 séances.
Mais une thérapie classique, vous pourriez juste parler, vous l'avez fait ? J'ai même pas l'impression dans tout ça.
Non, mon psychiatre en 93, il a dit non, on va de l'avant. Et puis,
en 93, Anne.
Bah, et là, le psychiatre de la clinique avec qui je suis maintenant depuis 2 ans, ici aussi dans la région, Il a même fait venir mon ami à la clinique pour lui parler, quoi.
Non, mais je ne vois pas le rapport, là.
Mais, non, là, bah, je lui ai dit, je l'ai vu jeudi. Bah, je lui ai dit, oui, bon, bah, c'est bien, me faire hospitaliser, c'est bien gentil. Mais on va faire quoi? Bon, on va revoir votre traitement.
Voilà, non, c'est pour ça que je pense qu'il faut, tout raser, tout reprendre au départ. Et le départ, c'est une thérapie classique. Vous allez voir toutes les semaines quelqu'un avec qui vous allez parler de l'enfance, parler de vos peurs, de vos angoisses, parler de cet homme, justement. C'est la base. Parce que là, j'ai l'impression... Un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste...
Parce que j'ai deux fois par semaine une demi-heure de psychologue en clinique.
Ah, ça, vous ne me l'avez pas dit.
Oui, on a bon, des activités, mais enfin bon, l'ergothérapie, c'est faire des pompons, enfin les...
Ah non,
ça, je ne sais pas.
C'est, oui.
On a une psychologue deux fois par semaine, une demi-heure.
Et qu'est-ce qui se passe alors pendant ces échanges?
Ben, moi, elle ne m'apporte pas grand-chose. Elle ne m'apporte pas grand-chose.
Ben, là aussi, pourquoi continuer alors? Oui, ça fait,
parce
ça fait
que
beaucoup
c'est
de monde.
Dans le programme.
Ben oui, parce que c'est dans le programme. Et si ça ne vous sert à rien? Je trouve qu'il y a trop de gens, trop de monde et trop de choses inutiles autour de vous en ce moment. C'est épuisant de courir à droite et à gauche, les thérapeutes, les thérapies, les endroits, si ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas efficace. Prenez le temps de trouver je pense qu'une psychologue, ce n'est peut-être pas assez en ce qui vous concerne. Il faudrait trouver un psychiatre qui fait la thérapie. Parce qu'en plus, ça serait remboursé.
Bah, celui que j'avais avant, il le faisait puisqu'on a fait de la TCC. Et celui que j'ai maintenant, il fait aussi. Hein, il est psychiatre, psychothérapeute.
Mais vous me dites que vous n'êtes pas en thérapie avec lui.
Non.
Et ben voilà, donc on tourne encore autour du pot. La TCC, ce n'est pas ce qu'il vous fallait. Ça me paraît assez clair. Bon, ça n'a pas fonctionné, la preuve. Maintenant, vous voyez quelqu'un avec qui pourrait faire une thérapie, vous ne la faites pas. La seule chose dont vous avez un besoin urgent, c'est d'en parler, d'évacuer plein de choses. Pas pendant des années. Le temps de faire un grand ménage pour tout ça. Mais si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place. Essayez avec celui que vous avez en ce moment de lui demander une vraie thérapie avec lui, un vrai échange. De parler.
Parce qu'en plus, il ne parle pas, donc...
Et voilà, vous avez besoin qu'on vous parle.
Bah oui, voilà, parce que bon, toutes les activités qu'il y a à la clinique, je ne vais que dans les groupes de parole. Moi, la piscine, le spa, le hammam, le machin, c'est Club Med là-bas, hein, de toute façon, mais bon...
C'est pas ce qu'il vous faut.
Moi, je vais que dans les groupes de parole, quoi. Il n'y a que ça qui m'intéresse.
Et bien sûr. Et vous voyez comme le temps passe vite quand on se parle.
Ouais.
Hein, et quand les gens disent « oui, là, il ou elle a qu'à part l'antenne », eh ben oui, quand on va mal, on a besoin de parler et on est là pour ça. Mais je vous assure, réfléchissez à ce qu'on s'est dit, Anne. Il y a trop de gens autour de vous et des gens qui ne vous servent à rien.
Parce que là, reprendre une thérapie, mais à partir de où et à partir de quoi?
Ah mais ça, c'est le thérapeute qui va vous orienter là-dessus. Et c'est pas reprendre une thérapie, pour moi, c'est commencer une thérapie. Vous n'avez jamais vraiment commencé une thérapie, de ce que j'entends. Vous avez fait plein de choses parallèles, mais pas une véritable thérapie classique. Reparler de tout ça, reposer les choses, prendre le recul nécessaire. Pas forcément une fois encore, pas forcément pendant des années. Le temps que ça sorte. Quand c'est sorti, c'est plus à l'intérieur. Et quand ce sera sorti, alors vous allez travailler sur le comment aller mieux. Et ça peut aller souvent beaucoup plus vite qu'on l'imagine, vous savez. J'aime bien cette phrase, et ça sera la phrase de la fin, parce que je vais devoir vous laisser,
oui, bien sûr.
Qui dit, vous savez, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte.
Oui.
Hein?
D'accord.
Gardez ça en tête.
D'accord.
Entourez-vous moins, mais mieux aussi.
Ben oui, je vais essayer.
Et n'interprétez pas tout contre vous, parce que vous voyez, quelquefois, on peut se tromper quand on va mal.
Oui. Je vous remercie infiniment, Sabine.
Je vous envoie toute la lumière qui est en ma possession.
Je vous remercie.
Et je vous embrasse très fort, Anne.
Bonne soirée, moi aussi. Au revoir.
Au revoir.